Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Je reçois aujourd'hui le docteur Jacques Payot, chirurgien urologue à Chartres. Il nous a conté, depuis plusieurs émissions, son travail à Chartres, mais aussi ses voyages, le Togo. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'il nous conte son expérience au Tchad. Jacques Payot, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors, après le Togo, le Tchad. Un autre voyage pour aider encore comme bénévole.
Oui, comme je vous l'avais dit, Christiane, dans une précédente émission, c'est un travail que je fais de manière récente, puisque j'ai pris ma retraite il y a 2 ans et demi et que j'ai fait mon premier voyage au Togo il y a 2 ans et demi. Et donc après ma retraite. Et ce voyage au Togo, ce premier voyage au Togo m'a permis de découvrir ce qu'était l'Afrique et la façon dont on pouvait envisager de traiter et d'opérer les patients et quelles étaient les limites qu'on pouvait avoir. Ça m'a été extrêmement utile parce que ensuite j'ai été appelé par les jésuites qui avaient fondé le même genre d'hôpital qu'au Togo, mais qui avaient fondé un hôpital à N'Djamena, c'est-à-dire au Tchad. C'est un jésuite extraordinaire de dynamisme qui a maintenant 85 ans et qui reste toujours aussi dynamique. Il traîne un peu les pieds, mais enfin, il a une pêche d'enfer et il en est, je crois, à son 6e ou 7e hôpital créé au Tchad.
Et c'est lui qui avait demandé des bénévoles pour venir l'aider.
Absolument, c'est lui qui n'est pas médecin du tout,
ah oui,
et qui a fait en sorte de créer des hôpitaux. Et donc cet hôpital qu'il a créé à N'Djamena est le plus important parmi tous ceux qu'il a créés, les autres étant perdus un petit peu dans la brousse du Tchad. Celui-là est en ville.
Oui, parce que rappelons que le Tchad, c'est quand même un grand pays.
Oui, c'est un grand pays, je ne sais plus combien il y a d'habitants, mais enfin, la ville de N'Djamena est quand même extrêmement importante. Hein. C'est l'ancien Fort Lamy à laquelle sont très attachés les Français, le maréchal Leclerc, sa fondation, puisqu'il y a eu le régiment de marche du Tchad. Enfin bon, le Tchad est très proche de la France, ou était très proche de la France, tant que la France s'en occupait vraiment.
Oui. C'est le 5e pays, je crois, le plus vaste d'Afrique.
Je ne sais pas.
C'est quand même, je crois. Donc c'est quand même très important et le climat est très désertique. Donc est-ce que ça va influer aussi sur les maladies que vous allez rencontrer ?
Le climat est chaud, assez humide. On y rencontre à peu près les mêmes maladies qu'au Togo, c'est-à-dire pour un urologue, les calculs du rein, les problèmes de prostate, les problèmes de rétrécissement de l'urètre, comme on l'avait envisagé dans une précédente émission, et puis une autre chose de capitale qui sont les fistules vésico-vaginales. Les fistules vésico-vaginales, ça n'est pas un gros mot non plus, mais par contre c'est une pathologie qui est épouvantable, car elle touche des femmes, et cette pathologie les exclut complètement de la société, de la famille.
Et c'est quoi,
C'est quoi
Oui.
Eh bien, ce sont des jeunes femmes dont le premier accouchement, habituellement, s'est mal passé. Elles étaient trop loin du centre de maternité. Mmh. C'est leur premier accouchement, donc le bassin n'est pas encore formé et la filière d'évacuation du bébé est mal formée. Et pour peu qu'elle soit elle-même un petit peu étroite, le bébé meurt pendant l'accouchement. Elles finissent par accoucher ou par faire extraire ce bébé d'une manière ou d'une autre par une vague sage-femme perdue dans la brousse. Et ça se solde par un délabrement du périnée. Le périnée, c'est le mot anatomique que nous employons pour désigner le petit bassin et toute la musculature du petit bassin et tout le plancher du petit bassin. Et ce délabrement se solde après cicatrisation habituellement par des trous qui font communiquer de manière anormale la vessie, le vagin et le rectum. Ce qui fait que ce sont des très jeunes femmes, entre 15 et 25 ans, en pleine forme par ailleurs, parce qu'elles ne sont pas malades, qui se retrouvent avec des fuites donc urinaires ou fécales ou les deux, et qui sont souvent difficiles à traiter. Et ça, c'est une pathologie que nous, urologues, avec les chirurgiens gynécologues, sommes prédestinés à traiter.
Mais en France, vous aviez eu aussi...
La réponse est non, parce qu'en France, les accouchements se passent bien.
Mais oui, c'est ça.
Si ça se passe mal, on fait tout de suite la césarienne.
Bien sûr. Bon.
Donc, il n'y a quasiment jamais de ce type de fistule.
Mais oui, mais on a entendu.
Alors, moi, dans ma pratique, je devais traiter à peu près une fistule vésico-vaginale tous les ans, mais qui n'était absolument pas liée à des accouchements maltraités, et qui était liée à des pathologies type cancer de l'utérus, qui avait été traité par des rayons, et 10 ans, 15 ans plus tard, les brûlures occasionnées par les rayons déclenchaient des fistules entre vessie et vagin. D'ailleurs, c'est une chirurgie qui est extrêmement difficile parce que ces fistules radiques, donc provoquées par les rayons, modifient complètement la qualité des tissus, de telle sorte que lorsque l'on les opère, on tombe sur des tissus extrêmement friables, ou au contraire des tissus durs comme du béton, dans lesquels on ne peut pas passer les fils, qu'on ne peut pas disséquer. Donc c'est souvent une chirurgie très difficile, mais qu'on pratique une ou deux fois par an dans un service d'urologie normal, habituel. Alors que en Afrique, ces fistules vésico-vaginales qui surviennent chez les jeunes femmes, il y en a énormément. Le premier problème, c'est qu'il faut d'abord les découvrir. Pourquoi ? Parce qu'elles se cachent. Elles se cachent parce qu'on ne veut pas d'elles. Elles sentent mauvais, puis ça coule, c'est pas beau. Donc elles ont eu un double malheur.
C'est
elles
horrible,
ont perdu
hein,
leur
oui.
bébé.
Ah, oui.
Elles sont exclues. Alors, bien entendu, le mari ou le compagnon est parti depuis bien longtemps avec une autre. La maman est la toute dernière qui arrive à s'en occuper un tout petit peu de loin, de très loin. Mais souvent, elle est mise vraiment en dehors du village.
Une sorte d'ostracisme.
Voilà. Et de telle sorte qu'on n'est pas au courant. On ne sait pas. Et actuellement, au Togo et au Tchad, il y a des associations locales, de genre Rotary, Lions Club, avec des femmes évoluées, qui sont en train d'essayer de lancer des grandes prospections dans toutes les campagnes pour faire sortir ces filles de leur gîte et pour qu'elles viennent à la consultation. Sinon, elles ne veulent pas se montrer. Alors, une fois qu'on les voit à la consultation, on peut donc les examiner, voir si la fistule est opérable, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. De temps en temps, le délabrement est tellement important qu'on renonce à l'opérer parce que finalement, on se dit qu'on va encore aggraver les choses.
Ah oui.
Donc, on la laisse repartir, ce qui pose problème, puisque j'étais récemment en République démocratique du Congo, où on faisait avec des Belges une mission uniquement fistule. Et les jeunes femmes venaient souvent de très loin, et je me souviens d'une qui avait fait 80 ou 100 kilomètres à pied, toute seule, puisqu'elle a pu, sa famille la laisse tomber, donc elle est venue toute seule, donc marché pendant au moins 8 jours, pieds nus, dans la brousse. Elle arrive, on l'examine, et puis malheureusement, cette jeune femme est repartie avec sa fistule parce que le délabrement était trop important et nous avons estimé qu'on ne pouvait rien faire. En France, on aurait fait ce qu'il y avait à faire et on aurait fait très probablement.
On l'aurait gardé
et on aurait fait une chirurgie de reconstruction, mais en utilisant l'intestin ou bien en faisant une chirurgie de dérivation des organes. On aurait fait ce qu'il y avait à faire.
Oui,
mais là, c'était pas possible parce qu'on lui aurait aggravé sa situation. Elle était déjà habituée à avoir cette fuite. Elle est repartie avec sa fuite. Mais évidemment, elle était très désolée et nous aussi.
Mais oui. Ouais. Et les chirurgiens là-bas sont formés pour cette chirurgie.
À la mission que j'ai fait récemment, là c'était au mois de mai, en RDC,
Alors, peut-être, situons le pays un peu.
Alors, la RDC, donc là, on est sous l'équateur.
Oui, c'est ça.
On est sous l'équateur, et on est d'autant plus sous l'équateur que le village qui avait été ciblé pour faire ça était vraiment dans le sud de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire celle qu'on appelle le Congo-Kinshasa.
Oui, c'est ça.
Et donc, c'est au sud d'une grande ville qui s'appelle Lubumbashi, qui est l'ancienne Elisabethville.
Oui, parce que c'est le deuxième plus grand pays
d'Afrique. Très grand pays, immense. Mais enfin, c'est un pays qui est désertique aussi. Hein. C'est une espèce de steppe avec des arbres qui sont mal formés. Enfin,
Mais là, on parle français.
On parle français. Oui. Non, on parle belge, madame.
Oui, bah oui. Mais enfin...
non, on parle français, oui, absolument. Français. C'est la langue officielle.
Oui. Voilà. Donc pour vous, c'était peut-être plus facile aussi. Non.
Attendez, la langue officielle est le français, oui. Mais il faut un interprète parce qu'il y a tous les dialectes.
Ah oui, il y a quand même les dialectes.
Il y a plein de dialectes. Chaque village quasiment a son dialecte propre.
Ah oui, chaque village.
Alors vous me posiez la question, est-ce qu'on forme des chirurgiens ? La réponse est oui. Il y avait pendant cette mission où nous étions venus avec tout notre matériel, parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Il y avait 3 chirurgiens locaux qui participaient avec nous aux opérations et que nous faisions opérer. Donc quand on est parti au bout de 15 jours, avait opéré une bonne quarantaine de jeunes femmes, au bout de 15 jours, ils commençaient à savoir un petit peu.
Oui, voilà. Et pourtant, ce sont des chirurgiens diplômés.
Oui, mais c'est des chirurgiens diplômés locaux. Enfin, c'est pas du tout l'équivalent de 4 ou 5 ans d'internat à Paris, puis 2 ans de clinica, je ne sais où.
Ah oui. Ils ont combien d'années à leur étude?
Ils font 5 années de médecine, mais le niveau du médecin n'est pas celui de France, de médecine. Puis après, ils vont faire chirurgie, mais je crois qu'ils ont leur diplôme au bout de 3 ans. De chirurgie. Puis après ils sont lâchés dans les hôpitaux. Ils rendent grand service quand même.
Donc, oui, mais ils sont très très heureux de vous voir arriver avec vos techniques, votre façon
de
travailler.
J'en suis sûr. Ils étaient très heureux de nous voir, d'autant plus qu'on leur a laissé beaucoup de matériel à la fin. Donc ils étaient contents, oui. Et les femmes aussi. Les femmes étaient contentes parce que celles qui sont reparties asséchées, c'est-à-dire n'ayant plus de fistules, elles avaient retrouvé leur sourire. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur de voir ces jeunes femmes, très belles souvent. Au Congo, elles sont belles et petites. Ce sont des petites femmes, mais elles sont bien proportionnées, elles sont jolies. De les voir d'une tristesse infinie le premier jour, et quand elles repartent, ou quand on les revoit lors d'une mission suivante avec un immense sourire et en nous disant qu'elles ont retrouvé une vie. Alors le gros problème, c'est que une fois qu'elles ont retrouvé la vie, bien entendu il y a tout de suite un homme qui se précipite pour leur faire un enfant,
et alors ça va tout dévaster,
alors ça va tout casser. Donc on les supplie de ne pas avoir de rapport sexuel avant 3 mois et de faire une césarienne, de se faire faire une césarienne dans la mesure du possible au terme de la grossesse. Mais là, c'est très souvent un vœu pieux.
Eh bien, un grand merci, docteur Jacques Payot. Je crois que nos auditeurs auront hâte de vous retrouver le mois prochain. Je vous rappelle que vous pourrez nous réécouter sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci, docteur Jacques Payot.